trouva un sacrificateur et lui demanda pour Damas des lettres adressées aux synagogues, en sorte que s'il en trouvait quelques-uns qui fussent de la voie, il les amena, hommes et femmes liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin, il arriva qu'il approcha de Damas, et tout à coup une lumière brilla du ciel comme un éclair autour de lui. Et étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et il dit « Qui es-tu, Seigneur ? » Et il dit « Je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi et entre dans la ville, et il te sera dit ce que tu dois faire. » Chapitre 18, au verset 8e. S'opposait, blasphémait, il secoua ses vêtements et leur dit, « Que votre sang soit sur votre tête, moi je suis net, désormais je m'en irai vers les nations. » Étant parti de là, il entra dans la maison d'un homme juste qui servait Dieu, et dans la maison tenait à la synagogue. Mais Crispus, le chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison, et plusieurs des Corinthiens l'ayant ouï crurent et furent baptisés. Or le Seigneur dit de nuit dans une vision à Paul, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point parce que je suis avec toi, et personne ne mettra les mains sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un grand peuple dans cette ville. » Et il demeura là 1 an et 6 mois, enseignant parmi eux la parole de Dieu. Chapitre 22, au verset 12. Un certain Ananias, homme pieux selon la loi, et qui avait un bon témoignage de tous les Juifs qui demeuraient là, venant vers moi à ce moment-là, me dit « Saul, frère, recouvre la vue. » Et sur leur levant les yeux, moi je le vis. Et il dit, « Le Dieu de nos pères t'a choisi d'avance pour connaître sa volonté et pour voir le juste et entendre une voix de sa bouche, car tu lui seras témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu, lève-toi et sois baptisé et te lave de tes péchés, invoquant son nom. Or, quand je fus de retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, il m'arriva d'être en extase et de le voir me disant, « Hâte-toi et sors au plus tôt de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage à mon égard. » Au chapitre 23, un grand tumulte s'étant élevé, le filiarque craignant que Paul ne fût mis en pièces par eux, commanda à la troupe de descendre et de l'enlever du milieu d'eux et de le conduire à la forteresse. Et la nuit suivante, le Seigneur se tint près de lui et dit, « Aie bon courage, car comme tu as rendu témoignage des choses qui me regardent à Jérusalem, ainsi il faut que tu rendes témoignage aussi à Rome. » Chapitre 27. Au verset 22, « Et maintenant je vous exhorte à avoir bon courage, car on ne fera la perte de la vie d'aucun de vous, mais seulement du navire, car un ange du Dieu à qui je suis et que je sers est venu à moi cette nuit disant, ne crains point, Paul, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, ayez bon courage, car je crois Dieu, et je sais que la chose arrivera comme il m'a été dit, mais il faut que nous soyons jetés sur quelque île. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12 de la deuxième épître aux Corinthiens, au verset 7e, « Afin que je n'enorgueillisse pas, à cause de l'extraordinaire des révélations, Il m'a été donné une écharde pour la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, j'ai supplié trois fois le Seigneur, afin qu'elle se retirât de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure sur moi. C'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, alors je suis fort. Et un dernier passage dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 4e, verset 16. 2 Timothée 4, 16. Dans ma première défense, personne n'a été avec moi, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, afin que par moi la prédication fût pleinement accomplie et que toutes les nations l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toutes mauvaises œuvres et me conservera pour son royaume céleste. À lui la gloire, au siècle des siècles. Amen. Seul de Tarse est le nom d'un fanatique méchant et cruel, respirant encore menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur. Il alla au souverain sacrificateur et lui demanda pour Damas des lettres adressées aux synagogues, en sorte que s'il en trouvait quelques-uns qui fussent de la voie, il les amena, hommes et femmes, liés à Jérusalem. C'était là toute sa satisfaction, c'était là tout son bonheur de pouvoir se saisir des premiers chrétiens, de ceux que l'on appelait de ce nom la voix, ceux de la voix, expression que l'on trouve seulement dans le livre des Actes. À 6 reprises, il nous est parlé de la voix. C'est donc que ce terme, la voix, il y avait probablement quelque mépris dans l'usage de ce nom pour désigner les croyants, ceux qui croyaient au Seigneur Jésus. Pourquoi ce nom, la voix? Ce nom désigne ceux qui s'étaient engagés dans la voie nouvelle, c'est-à-dire la voie du christianisme. C'était la voie nouvelle, c'était la voie enseignée par le Seigneur Jésus. C'était le chemin que désormais il fallait suivre. Il fallait sortir soit du judaïsme, soit du paganisme, et ainsi suivre ce chemin nouveau, enseigné par le Seigneur, le Seigneur Jésus lui-même ayant dit « Je suis la voie, la vérité et la vie, le chemin, la vérité et la vie ». Tous ceux qui avaient donc cru au Seigneur Jésus et qui s'étaient engagés dans une telle voie, ce sont ceux-là qui sont appelés la voie. À 6 reprises dans ce livre des Actes, il est fait mention de la voie du christianisme, la voie nouvelle, comme l'apôtre Pierre le dit dans sa deuxième épître, au 2e chapitre, il parle au verset 2, 2e épître, chapitre 2, verset 2, « Plusieurs suivront leurs excès, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. » C'était cette voie-là que les premiers croyants suivaient. Et parce qu'ils suivaient cette voie de la vérité, la voie du christianisme, ils étaient appelés sommairement de ce nom la voix. Seul de passe donc s'acharnait après eux, et ils n'avaient qu'une satisfaction, se saisir d'eux et les amener liés pieds et mains au souverain sacrificateur. Et voici que tandis qu'il est en chemin, qu'il s'approche de Damas, tout à coup une lumière brilla du ciel comme un éclair autour de lui. Une voix se fait entendre, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» La première fois qu'il aura l'occasion d'entendre la voix du ciel, une voix se fait entendre, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Alors, Saul de répondre, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur de dire, « Je suis Jésus que tu persécutes. » On est à Damas, la voix se fait entendre, la voix céleste, « Pourquoi me persécutes-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Ainsi, le Seigneur montrait déjà à ce moment-là qu'en persécutant ceux qui étaient ses témoins, on le persécutait lui-même. Autrement dit, le Seigneur montrait par là l'association intime existante entre lui-même et ceux qui avaient mis leur foi en lui. C'est à Saul de Tarse que cela est dit, comme une première ébauche de ce mystère merveilleux qui lui serait confié, le mystère, la vérité de l'unité du corps de Christ. Les croyants formant un corps, étant chacun un membre de ce corps, et la tête de ce corps étant Jésus-Christ lui-même, la tête glorifiée dans le ciel. En disant, je suis Jésus que tu persécutes. Tu persécutes ceux qui sont à moi. Tu persécutes mes témoins. Tu me persécutes moi-même. Le Seigneur montre par là même que les croyants sont unis en un seul corps. Et ce serait cette grande vérité, entre d'autres, qui serait confiée à celui qui ne s'appellera plus Saul de Tarse, mais l'apôtre Paul. La voix du ciel se fait entendre une première fois. Nous sommes à Damas. Pour suivre l'ordre chronologique, nous passons au chapitre 22, où alors nous sommes maintenant à Jérusalem. Mais avant d'arriver à Jérusalem, qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Est-ce qu'il a servi le Seigneur avant d'entrer officiellement dans le ministère auquel il a été appelé? Certainement. Ce même chapitre 9 nous dit que dès qu'il a recouvré la vue, dès qu'il a pu se tenir debout sur ses pieds, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annoncé Jésus comme étant le Fils de Dieu. La première fois que dans le livre des Actes des Apôtres, nous entendons parler du Fils de Dieu. Il faut aller jusqu'à la moitié du chapitre 9e pour entendre parler du Fils de Dieu. L'apôtre Pierre, dans ses divers discours, avait beaucoup parlé de Jésus. Il avait parlé du saint serviteur Jésus. Il avait parlé de celui que Dieu a fait, prince et seigneur. Mais il n'avait pas parlé du Fils de Dieu. C'est Saul de Tarse, dès sa conversion, qui s'en va et proclame que Jésus est le Fils de Dieu, le Christ, annoncé par les anciennes Écritures. Au chapitre 13, alors, il entrera officiellement dans son ministère accompagné de Barnabas. Et c'est alors, dans les premiers versets, dans le premier verset du deuxième alinéa de ce chapitre 13, qu'il est dit que désormais, le Saul de Tarse a été appelé Paul. Et depuis ce moment-là, début du chapitre 13, il ne sera plus jamais question de Saul de Tarse, mais de Paul ou de l'apôtre Paul. Au chapitre 22e, nous sommes à Jérusalem et l'apôtre a été visité par Ananias. Ananias lui a dit de la part du Seigneur pourquoi il avait été choisi. Pour trois raisons. Pour connaître la volonté de Dieu, pour voir le juste, pour entendre une voix de sa bouche. Autrement dit, des ordres précis lui seraient donnés quant au ministère auquel il allait être appelé. Mais, chers amis, serait-ce exagéré de faire une application de ce passage à nous tous? Pourquoi avons-nous été choisis? Pourquoi avons-nous été sauvés? Pourquoi avons-nous été appelés par l'amour de Dieu à croire au Seigneur Jésus? N'est-ce pas aussi pour que nous apprenions à connaître sa volonté, pour que nous voyons le juste, le Seigneur Jésus lui-même, ce que nous a enseigné essentiellement l'Épître aux Hébreux que nous considérons ici même depuis plusieurs années? L'Épître aux Hébreux est là pour nous faire voir le juste, le Christ élevé dans la gloire du ciel, le Christ céleste. Et enfin, pour entendre une voix de sa bouche, le Seigneur a à nous parler. Il nous parle dans une réunion, il nous parle dans le chemin, il nous parle dans le cercle de nos familles. Le Seigneur nous parle par moyen de sa parole. Est-ce que nous aurons des oreilles attentives pour recevoir sa parole, des cœurs ouverts pour recevoir, largement ouverts pour recevoir ce que le Seigneur veut nous dire? Le Seigneur nous parle ce soir. Le Seigneur nous appelle à lui, si nous ne le connaissons pas encore. Le Seigneur nous enseigne et nous exhorte par le moyen de sa parole. Voulons-nous écouter ce soir ce que le Seigneur a à nous dire? Il y a une voix qui sort de sa bouche pour nous parler, parce qu'à chacun, à chacune d'entre nous, aux jeunes, aux moins jeunes, il a quelque chose de précis à nous dire. Puissions-nous avoir des oreilles ouvertes pour percevoir ce que cette voix qui sort de sa bouche a à nous dire. Et voici Saul qui se trouve à Jérusalem. Il se trouve dans le temple, il connaît une sorte d'extase et il entend pour la seconde fois cette voix qui vient du ciel. Il dit, il m'arriva d'être en extase et de le voir, il l'a vu, me disant, il l'a entendu, hâte-toi et sors au plus tôt de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage à mon égard. C'est une parole pour Saul de Tarse hautement solennelle. Dès le début, tandis qu'il est en prière, dans le temple, à Jérusalem, il entend cette voix du ciel qui lui dit, sors au plus vite de Jérusalem. Ils ne recevront jamais ton témoignage. Et pourtant, bien plus tard, l'apôtre Paul montra à Jérusalem. L'apôtre Paul aurait dû se souvenir de cette parole du début, de cette voix qui s'est fait entendre. Hâte-toi et sors au plus tôt de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage à mon égard. Paul, plus tard, est monté à Jérusalem. Et s'il s'était souvenu de cette parole, il ne serait jamais monté une autre fois à Jérusalem. Au chapitre 18, nous nous trouvons à Corinthe, à Damas, à Jérusalem. Au chapitre 18e, nous sommes à Corinthe. L'apôtre Paul, selon son habitude, a parlé d'abord aux Juifs. Les Juifs se sont montrés oppositionnels et blasphémateurs, n'ont rien voulu entendre de la parole de Dieu. Alors que fait l'apôtre? L'apôtre leur dit ceci, que votre sang soit sur votre tête, moi je suis net, désormais je m'en irai vers les nations. Et alors il est venu dans la maison d'un homme juste qui servait Dieu, et il a eu la joie de voir le chef de synagogue croire au Seigneur Jésus avec toute sa maison. Plusieurs Corinthiens ont cru également et ont été baptisés. Et puis, il entend pour la troisième fois, d'une façon directe, cette voix qui vient du ciel, qui est celle du Seigneur lui-même. Or, le Seigneur dit de nuit dans une vision à Paul, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, parce que je suis avec toi. » Nous-mêmes, si nous nous étions trouvés dans une position semblable, une situation étions semblables, nous aurions dit peut-être, ah, c'est pas le chemin du Seigneur, ah, il y a de l'opposition, il y a de la persécution, et c'est, la porte est fermée, il nous faut aller ailleurs. Il est vrai que l'apôtre s'est détourné de ces Juifs, mais il est resté quand même à Corinthe. Et il a été alors encouragé par cette voix du Seigneur qui lui a dit « Ne crains pas, Paul, ne crains pas, mais parle, ne te tais point, parce que je suis avec toi. J'ai un grand peuple dont cette ville est en effet une église ou assemblée a été fondée, l'assemblée qui est à Corinthe, une grande assemblée a été fondée. Le Seigneur l'avait dit, j'ai un grand peuple pour mon nom dans cette ville. Parle, Paul, ne te tais pas, ne crains pas, je suis avec toi. Le Seigneur l'assure de sa présence constante, ne crains pas, parle. Alors l'apôtre, encouragé, demeura là 1 an et 6 mois, enseignant parmi eux la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre a donc été encouragé? Il est resté longtemps, puisqu'il est resté 18 mois. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné la parole de Dieu. Qu'enseignons-nous, chers amis? Qu'enseignons-nous dans l'assemblée, dans nos familles, si nous nous trouvons avec quelques jeunes? De quoi parlons-nous? L'apôtre Paul enseignait la parole de Dieu. Et pareillement, nous avons à parler de la parole de Dieu. Il ne faut pas parler de nous-mêmes. Parler de nos expériences, ça ne sert à rien du tout. Parler de soi, ça n'est jamais édifiant. Encore moins si on parle de soi en bien. Raconter des histoires, des anecdotes, cela non plus, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est tout autre chose que de rappeler la pensée d'un conducteur, de rappeler l'enseignement d'un frère d'autrefois, hautement qualifié de la part du Seigneur, cela est tout autre chose. Cela, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une anecdote. C'est un rappel de la pensée d'un frère au sujet d'un passage de la parole de Dieu. Il peut arriver qu'on se sert de ces divers moyens parce que la connaissance que nous pouvons avoir de la parole de Dieu est faible. Il y a de grandes lacunes et l'on compense, on comble ces lacunes précisément par ces choses étrangères, des histoires, des anecdotes, ses propres expériences, tout cela qui en fait n'édifie point. Nous parlons du ministère de la parole de Dieu. Nous ne parlons pas de l'entretien d'un frère avec un jeune frère, de deux frères ensemble, de deux sœurs, c'est tout autre chose. Nous parlons du ministère de la parole de Dieu au sein de nos familles, en rapport avec une petite rencontre de jeunes, au sein d'une réunion dans l'assemblée. De quoi parlons-nous? L'apôtre Paul enseignait la parole de Dieu et rien d'autre qui nous soit donné. De nous souvenir de l'une des toutes dernières exhortations de l'apôtre Paul, quand il a dit « Prêche la parole, prêche la parole ». Et aujourd'hui encore, c'est la parole qu'il faut prêcher, c'est la parole de Dieu qu'il nous faut enseigner. C'est cela qui édifie, c'est cela qui en définitive amène à Dieu. C'est là la troisième occasion à Corinthe où l'apôtre a donc entendu la voix de Dieu. Les jours viendront où vous serez menés devant les Sanhédrins, les gouverneurs et les rois. Devant les Sanhédrins, les gouverneurs et les rois. Au chapitre 23e, l'apôtre Paul est conduit vers le Sanhédrin. Au chapitre 24e, il est conduit vers le gouverneur, Félix, puis son successeur, Festus. Et au chapitre 28e, il est conduit vers un roi, le roi Agrippa II, Hérode Agrippa II, comme l'appellent les historiens. Ce que le Seigneur Jésus avait annoncé s'est pleinement réalisé pour l'apôtre Paul. Il a comparu devant les Sanhédrins, les gouverneurs et les rois. Dans ce chapitre 23e, il a donc comparu devant le Sanhédrin, Il y a un tumulte qui s'est manifesté et on est prêt de mettre en pièces l'apôtre Paul, le serviteur de Dieu. Alors apparaît ce Filiarque qui est une personnalité. Si nous lisons attentivement ce chapitre 23e, nous voyons cet homme. Contrairement à ses commandants militaires, les Filiarques par exemple, nous le voyons animé de très bons sentiments. Il est très heureusement disposé à l'égard de l'apôtre Paul et nous avons plusieurs manifestations de bienveillance au cours de ce chapitre 23 à l'égard de l'apôtre Paul. Et la première manifestation est celle-ci, c'est qu'il le protège. Craignant que Paul ne fût mis en pièces par eux, il commanda à la troupe de descendre et de l'enlever du milieu d'eux et de le conduire à la forteresse. Nous sommes donc ici de nouveau à Jérusalem. Nous sommes dans une forteresse, dans le silence et dans la nuit, et le silence est rompu par la voix qui pour une quatrième fois se fait entendre du serviteur fidèle et dévoué, la voix du Seigneur. Le Seigneur lui-même se tint près de lui et lui dit, « Aie bon courage, tu as rendu témoignage des choses qui me regardent à Jérusalem, ainsi il faut que tu rendes témoignage aussi à Rome. » Donc l'apôtre Paul est monté à Jérusalem. Tout au début, le Seigneur lui avait dit, alors qu'il priait dans le temple, « Hâte-toi de sortir de Jérusalem, jamais ils ne recevront ton témoignage à mon égard. » L'apôtre Paul est quand même monté au chapitre 21, il est quand même monté à Jérusalem. Et c'est un voyage qui au premier abord peut nous paraître étrange. Le Seigneur a permis qu'il rencontre les frères de Tyr. Et les frères de Tyr, par l'Esprit, lui ont dit, Paul ne monte pas à Jérusalem. Il ne pouvait pas se tromper, il parlait par l'Esprit. C'était juste, puisque c'était l'Esprit qui leur dictait ces paroles. Ne monte pas à Jérusalem. Un peu plus loin, un prophète est envoyé du nom d'Agabus. Et Agabus, prenant la ceinture de l'apôtre Paul, lui annonce que l'apôtre Paul, à qui appartient cette ceinture, serait lui-même lié pieds et mains. « Monte pas à Jérusalem, Paul. » Agabus lui dit par l'Esprit Saint, « Ne monte pas à Jérusalem. » Agabus ne pouvait pas se tromper, il parlait par l'Esprit Saint. Et Paul, lassé quelque peu d'entendre ces diverses objections, finit par dire, « Jusqu'à quand briserez-vous mon cœur ? Ne savez-vous pas que je suis un homme prêt à mourir pour le nom du Seigneur Jésus ?» Et c'était vrai, et c'était vrai. Et c'est là extraordinaire de penser qu'il y a eu sur cette terre un serviteur de Dieu qui a pu dire « Je suis prêt à mourir pour le nom du Seigneur Jésus. » Et prêt, il l'était sans le moindre doute. C'est le même serviteur qui, écrivant aux Philippiens, dira « Ayant le désir de déloger et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup meilleur. » Alors, à l'ouïe de telles paroles, la multitude se tue, et a dit « La volonté du Seigneur soit faite. » Et Paul est donc monté à Jérusalem. On a beaucoup parlé de ce voyage. A-t-il eu raison, a-t-il eu tort? Il nous semble que, éclairé par les pensées d'un conducteur du siècle passé, nous pouvons dire ceci. Paul a été averti par l'Esprit Saint de ne pas monter à Jérusalem. Il y est monté quand même, donc il n'est pas monté poussé par l'Esprit Saint. Mais il est monté à Jérusalem étant mu par cette ardente affection qu'il avait pour son peuple, pour ses frères dans la chair, tant il était désireux, qu'il se tourna vers le Seigneur Jésus, Jésus de Nazareth, et qu'il acceptasse pour leur sauveur. Ah, c'était tout son désir,
que le peuple d'Israël vint à reconnaître le Seigneur Jésus pour son sauveur. Et il est monté à Jérusalem. Est-ce que le Seigneur leur fait un reproche? Parce qu'en montant à Jérusalem, on y a fait allusion hier après-midi, est-ce que l'apôtre en montant à Jérusalem se trouvait dans une situation pratiquement inextricable? Heureusement, le Seigneur est intervenu, mais si le Seigneur n'était pas intervenu, l'apôtre aurait été amené à commettre des actes exactement contraires à ce qu'il avait enseigné. Dieu soit béni, il ne l'a pas permis. Et l'apôtre était gardé de commettre de tels actes. Mais est-ce que le Seigneur lui a déjà ordonné proche? Non, chers amis, le Seigneur a été sensible à ce grand fait qu'il avait à cœur le salut des âmes, qu'il voulait le salut de son peuple, de ses proches dans l'affaire. C'était là tout son désir. Et voilà pourquoi le Seigneur lui dira dans cette nuit, la dernière nuit qu'il a passée à Jérusalem, « Aie bon courage, tu as rendu témoignage des choses qui me regardent à Jérusalem. » Il n'y a pas l'ombre d'un reproche. Il y a là comme une reconnaissance, une approbation de la part du Seigneur. Tu es monté à Jérusalem, mais je sais ce que tu as fait à Jérusalem. Tu as rendu témoignage à mon nom. Tu as parlé des choses qui me regardent. Tu as souffert en faisant cela, mais tu dois encore aller à Rome. À Rome, tu parleras de moi, tu rendras témoignage de moi, tu auras encore à souffrir. Ainsi donc, Paul est allé à Rome, et au chapitre 27e, il s'est embarqué. Nous avons là le tableau du terrible naufrage, et au milieu duquel le serviteur de Dieu, plein de confiance, a entendu pour une cinquième fois la voix du ciel. Le Seigneur s'est servi de l'un de ses anges pour lui parler. Alors, Paul prend courage. Verset 22, je vous exhorte à avoir bon courage. Car un ange du Dieu à qui je suis et que je sers est venu à moi cette nuit, disons, ne crains point Paul. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, ayez bon courage. Je crois Dieu et je sais que la chose arrivera comme il m'a été dit. Quel beau tableau nous avons là de l'apôtre Paul. Qu'était-il donc l'apôtre Paul? Il était un homme qui appartenait à Dieu. Il était un homme qui servait Dieu. Il était un homme qui croyait Dieu. Il ne croyait pas seulement en Dieu, il croyait Dieu. Dieu venait de parler, sa voix s'était fait entendre du ciel. Il peut dire, je crois Dieu. Un ange m'a dit ce qui nous arrivera. Nous arriverons tous un jour sur un rivage sains et saufs. Le Dieu à qui je suis, nous appartenons au Seigneur. Nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons au Seigneur. Le Dieu que je sers, nous avons été convertis, chers amis, pour servir le Dieu vivant et vrai. Le Dieu que l'apôtre croyait, que notre foi pratique, que notre confiance en ce que Dieu dit soit augmentée et que notre Dieu puisse davantage être honoré dans notre foi. Deux occasions encore, selon le témoignage des Épîtres, où la voix s'est fait entendre, où il a été donné à l'apôtre de connaître ce contact direct avec Dieu, le contact de l'âme avec Dieu. L'avant-dernière occasion, la sixième, est ce que nous avons lu dans la deuxième épître aux Corinthiens. L'apôtre avait une écharpe dans l'affaire. Qu'était-ce que cette écharpe? Plusieurs suppositions ont été faites, du reste, à l'appui de certains passages des Écritures. Toujours est-il qu'il y avait là une charte qui le faisait beaucoup souffrir. Alors l'apôtre de dire, tout en reconnaissant que c'était afin qu'il ne s'enorgueillisse pas, il avait été élevé au troisième ciel, il avait reçu des révélations exceptionnelles, il avait entendu des choses ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer, il aurait pu, revenant sur la terre, s'enorgueillir. Nous nous enorgueillissons très facilement. Afin que je m'enorgueillisse pas, dit l'apôtre, il m'a été donné une écharde pour la chair, afin, répète-t-il, que je m'enorgueillisse pas. Alors il a supplié le Seigneur une fois, deux fois, trois fois. J'ai supplié le Seigneur trois fois, et afin que cette écharde se retirât de moi. Alors la voix s'est fait entendre du ciel à son serviteur. Et quelle parole admirable, dans leur simplicité et dans leur grande réalité. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Non pas, ta grâce me suffit, comme on le voit écrit parfois sur certains tableaux. Ma grâce, c'est le Seigneur qui parle, c'est pas nous. C'est le Seigneur qui parle et qui vient nous dire, ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Alors l'apôtre a compris qu'une telle écharde lui était accordée pour qu'il réalisât toujours son infirmité, qu'il réalisât toujours combien faible il était. Et il peut dire, ah, mais maintenant que j'ai appris cela, je me glorifie même dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure sur moi. Quand je suis faible, alors je suis fort. Que le Seigneur nous accorde, chers amis, de tirer une leçon combien importante de telles paroles. Ce soir, le Seigneur nous dit, ma grâce te suffit. On voudrait que les choses allent autrement. On voudrait pouvoir bénéficier d'autres moyens, de moyens plus visibles, plus réels. Le Seigneur vient nous dire, ma grâce te suffit, ma puissance accomplie dans l'infirmité. Réalisons, chers amis, notre faiblesse, que nous sommes toujours de pauvres êtres, très faibles. Alors, nous réaliserons aussi ceci, quand je suis faible, alors je suis fort, et nous pourrons servir le Seigneur efficacement. La dernière occasion, nous sommes à Rome, une autre grande ville, nous sommes à Rome, et tout à la fin du ministère de l'apôtre, et tout à la fin de sa vie. L'apôtre doit dire, dans ma première défense, personne n'a été avec moi, tous m'ont abandonné. Quelle force dans ces deux mots. Personne n'a été avec moi. L'apôtre, à cette heure extrême, est laissé seul. Personne n'a été avec moi. Tous m'ont abandonné. Il n'y en a pas un qui est resté avec moi dans ma première défense. Tous m'ont abandonné. Quelle solitude, chers amis, que celle-là. À part la solitude sainte connue par le Seigneur Jésus lui-même, il n'y a pas eu de serviteur connaissant une telle solitude. Tous m'ont abandonné. Personne n'a été avec moi. Toutefois, regardons vers le ciel, l'apôtre peut dire, le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur s'est tenu près de moi. Il m'a fortifié. Il a parlé bien des fois du Seigneur dans ce dernier chapitre de la dernière épître de l'apôtre Paul. C'était le Seigneur. C'était pas Christ, c'était pas le Sauveur, c'était le Seigneur, celui auquel il appartenait, celui qu'il servait, celui qui avait toute autorité sur son cœur. C'est le Seigneur. Et à cette heure extrême, s'il y a eu quelqu'un avec lui, ça a été le Seigneur. Il s'est tenu près de moi, il m'a fortifié, j'ai été délivré. l'apôtre a réalisé cette force qui vient du Seigneur, dont aussi nous avons parlé cet après-midi. Dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui a vécu près de Dieu, même étonnamment près de Dieu, pour la révélation qu'il avait des pensées de Dieu, c'est David. Quand toutes les circonstances les plus adverses se présentent, quand même la ville de Tsiklad est mise en feu, il est là dans une grande détresse, on menace de le mettre à mort, de le lapider, alors ces simples paroles, combien éloquentes, et David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Dans notre passage, nous avons une pensée plus élevée. Il n'est pas dit que Paul s'est fortifié dans le Seigneur. Il est dit que le Seigneur s'est tenu près de lui et l'a fortifié. Il a été délivré. Et il a confiance que le même Seigneur le délivrera de toute mauvaise œuvre, le conservera pour son royaume céleste. Il y aurait pu avoir des réactions charnelles, n'étant pas selon Dieu, mais l'apôtre sait que le Seigneur le gardera de toute mauvaise œuvre pour son royaume céleste. Et il termine, et tout son ministère écrit se termine comme, nous le disions cet après-midi, par cette doxologie, à lui la gloire, au siècle des siècles. Amen. Dernière parole du ministère écrit du grand serviteur de Dieu, de l'apôtre des gentils, de l'apôtre Paul. Une parole de gloire à l'adresse de son Seigneur, à lui la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le mot doxologie est un terme formé de deux mots grecs, parole de gloire. C'est là comme l'expression d'une adoration qui s'échappe du cœur vers Dieu, notre Père, ou vers Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur.